Bienvenue à ce nouvel épisode de Par la bande. Raymond Poirier avec vous, en direct de la Maison de la littérature, à l'occasion du 34e Festival Québec BD. Et je vous rappelle, Par la bande, c'est une exploration croisée autour d'une thématique et autour de différents albums de bandes dessinées québécois. Alors, pour cet épisode de Par la bande, on va parler de vocation, on va parler de transmission. Une thématique qui nous a été amenée par les albums Temps libre et Contact de Mélanie Leclerc. Et une thématique dans laquelle on va aller à la rencontre d'autres récits, notamment Un billet pour nulle part de Nunumi, La vin d'Audrey Beaulé et Le nouveau monde paysan au Québec de Stéphane Le Mardelet. Alors voilà, pour cet épisode de Par la bande qu'on amorce dès maintenant en compagnie de Mélanie Leclerc. Bonjour.
Bonjour.
Alors commençons peut-être par situer Contact et Temps libre. Des albums d'entrée de jeu, en fait, qui sont peut-être un peu en écho de l'un à l'autre dans la mesure où j'ai l'impression avec Temps libre, on explore un peu le défi, la difficulté de la création, le moment à laquelle, à un moment donné, on décide de lâcher prise ou de s'acharner. Et sous le couvert, dans le fond, d'un projet cinématographique, j'ai l'impression qu'avec Temps libre, c'est un peu aussi les 7 années que tu as passées à travailler sur Contact que tu mets en relief dans Temps libre.
Oui, ben oui, ça l'est. Tu l'as démasqué. Mais oui, absolument. Puis il y a aussi que c'était... Il y a beaucoup de rêves brisés qui s'accumulent au fil des temps. Puis des rêves pas nécessairement brisés, mais un peu maganés. Puis en sortant de l'autopublication de Contact en 2017 à peu près, je crois, il y avait un gros creux après où je me suis demandé quoi faire. Puis j'étais un peu pognée là avec des miettes de temps libre et des miettes de rêves brisés. Puis je me demandais qu'est-ce que je fais, est-ce qu'on continue? Fait que je voulais explorer cette question-là parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui traînent des morceaux comme ça, des patchs de rêve, là, qui essayent de coller ça à leur quotidien.
Oui, puis en fait, où à un moment donné, on se dit, est-ce que ça vaut la peine que je continue? Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout de ce rêve-là? Ou au contraire, est-ce que c'est un rêve que je vais devoir mettre de côté? Puis c'est un peu ce moment-là, dans le fond, dans lequel on te retrouve dans Temps libre, au bout du compte.
Oui, puis je voulais aussi que ça soit pas juste mon nombril dans toute cette histoire-là. Je voulais aussi... mettre une galerie de personnages qui chacun aussi traîne différents rêves ou appelons ça rêves ou projets ou des moments dans leur vie où ils sont confrontés à s'acharner ou à s'attacher, à s'accrocher ou carrément essayer de lâcher prise. Que ce soit des fois, il y a le personnage de la mère qui, elle, c'est la maladie qui, dans le fond, puis c'est la vie à laquelle elle veut finalement laisser lâcher prise. La tante, la marraine Louise, qui elle, c'est la mémoire qui l'oblige à lâcher finalement un projet artistique qu'elle berçait depuis longtemps, pour en faire naître un autre, par exemple, qui était par l'écriture, puis le projet du cinéma, puis l'ami Steve, qui lui était dans cette histoire-là, un musicien qui fait du télémarketing ou du... Je sais pas trop, une affaire au téléphone, pas trop dans le ventre, là. Fait que je voulais être quand même entourée de plusieurs rêveurs parce que... C'est ça, pour partager le fardeau un peu du rêve.
Oui, parce que y a une douleur peut-être un peu des fois quand on est obligé de mettre de côté quelque chose qu'on caressait, un projet, un rêve. Donc ça devient un peu, j'imagine... est-ce que c'est douloureux ou libérateur de créer autour, justement, de ces possibles fins de rêve-là, au bout du compte?
Je pense que c'est les deux. Puis c'est où ça... Il y a aussi que, tu sais, quand le rêve, ça fait longtemps que tu le portes, il fait partie de ton identité, puis de qu'est-ce que tu t'en... Tu sais, c'est une mauvaise phrase, mais de qu'est-ce que tu t'enlignes d'être, tu sais? C'est comme, ça fait partie de ta ligne, de comment tu t'es construit. À partir du moment où tu enlèves, mettons, ce bloc-là dans la tour Jenga, là, tu te demandes, OK, si je l'enlève, celui-là, c'est ça qui va faire que... tout va tomber. Fait que c'est inquiétant. Tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire, mais en même temps, c'est libérateur aussi. C'est pour ça que je voulais... dans le souper, il y a la scène du souper, il y a plein d'amis, puis qui sont tous, dans le fond, des chums d'université ou de cégep. Ils ont tous étudié en art, puis qui... Il y en a une qui est comme devenue préposée, bénéficiaire, puis l'autre qui est devenue tel. Puis il y a plein de manières de faire le deuil de cette affaire-là, tu sais, l'ami en question, elle a dit, moi, tu me paierais pour retourner sur une scène, puis je ne retournerais pas, tu sais, je suis tellement bien. Puis en effet, je pense qu'il n'y a pas une manière, là, c'est...
Puis dans, autant dans temps libre, on assiste un peu à, je dirais, la fin des rêves, mais qui peuvent être remplacés par autre chose, comme tu dis, qui est aussi bien, aussi beau, voire plus aussi. Et il y a ce lâcher-prise-là amène un peu vers ça. Et dans Contact, bien, c'est un peu la naissance d'une passion, la naissance d'une vocation aussi qu'on découvre et la transmission d'un savoir, parce qu'on va chercher, et dans ce cas-ci, c'est sept moments que tu as mis en scène avec ton père, donc de 82 à 2004, dans laquelle votre relation s'est construite, mais dans laquelle aussi ta relation avec l'image, avec le cinéma, s'est construit.
Oui. En effet, c'est, au départ, c'était pas ça qui était le plan, mais ça s'est transformé comme ça en cours de route. Moi, au départ, je voulais raconter la vie d'un homme, là, d'une personne. Je voulais raconter. Et puis, je m'étais dit, bien, tant qu'à raconter, parce que j'avais essayé plein d'histoires, puis ça... Mais si je vais partir de quelque chose qui existe, puis que je comprends, puis que je connais, un sujet que je maîtrise, bien, pas que je maîtrise, mais qui m'est familier. Donc, la vie de Martin, mon père, me paraissait pertinente en ce sens. Et puis, le travail de l'image, la photographie, puis c'est vrai qu'avec avec Martin, la relation que j'ai, c'en est une où ce que... La photographie était très importante. C'est bien quand on partage une passion avec un enfant ou même un proche. C'est comme ça l'ouvre plusieurs portes et puis ça nous met plus disponibles. On dirait qu'on en apprend plus que juste l'aspect relationnel de la famille, tu sais, ou de la parentalité. Il y a comme une espèce de... pas une médiation culturelle, là, c'est dit plate de même, mais c'est quand même ça pareil, mais comme sur le long terme, tu sais. L'aspect transmission, c'est comme greffé.
Et à travers tout ça, ben c'est, j'imagine, deux contextes aussi de création assez différents, parce que d'un côté, dans Contact, donc c'est centré, tu l'as dit, autour de la figure de ton père, de son apport aussi, parce qu'à travers l'histoire de Contact, il y a aussi une certaine histoire du cinéma québécois. Ton père était très présent à l'intérieur de l'évolution de l'image, notamment du côté de l'ONF et ailleurs. Dans Temps libre, on joue un peu aussi avec un peu d'autofiction là-dedans. On va chercher des amis, des contacts. Est-ce que, dans le fond, il y a peut-être un peu moins de poids biographique dans Temps libre comparativement à Contact, où on est plus libre? Peut-être d'amener l'histoire où on aura envie de l'avoir sans avoir ce poids-là, peut-être sur les épaules.
Oui. Oui. Je me suis plus permise des écarts par rapport à la construction des personnages, puis à part à ce que je voulais dire, tu sais, à ce que je voulais raconter avec Contact. C'était aussi le premier, donc c'était très. Pas scolaire, mais tu sais, puis je l'avais fait. Ça m'avait pris beaucoup de temps. J'avais eu un mentor. Après ça, j'avais été voir Jimmy Beaulieu. Puis j'avais demandé beaucoup, beaucoup de conseils. Fait qu'en quelque part, c'était une belle... En tout cas, c'était correct. Je sais pas comment le dire, mais c'était moins personnel. Tu sais, il y a eu beaucoup de yeux. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires, de construction au fur et à mesure, ce qui fait que je me suis adaptée au fur et à mesure que je le faisais dans les... C'est cette année que ça a pris en temps perdu. Fait que temps libre, après ça, je voulais essayer de voir si j'étais capable de le faire pas tout seul, mais presque, mais parce qu'Éric Bouchard à Mécanique, ça a été mon lecteur, ça a été le seul lecteur, puis le seul qui a comme... qui m'a suivi de A à Z, disons, là, puis qui a vu le produit fini. Fait que... Ouais, mais en effet, il y avait eu plus de liberté là-dedans. Puis aussi, il n'y avait pas de personnage. Je veux pas, avec Martin, dans Contact, on parlait de personnages qui étaient connus. Fait que c'est comme facile de se tromper, là, tu sais, puis de faire... De dire une connerie, puis de la redire comme imprimée plein de fois. Fait que j'avais comme un potentiel de pétage de fiole un peu plus grand. Alors, avec Temps libre, je me suis permise beaucoup plus de liberté.
Et on va explorer justement Contact et Temps libre, on le dit, dans le croisement avec différents autres titres. Alors, Mélanie Leclerc, évidemment, tu restes avec nous tout au fil de l'émission. De notre côté, bien, on va aller peut-être avec quelques suggestions de lecture courtoisie de Martin Dubé, de la librairie Le Port de Tête, autour justement de ces thématiques de la vocation et de la transmission.
Oui, bonjour, Martin Dubé de la librairie Le Port de Tête, le Festival de BD de Québec m'a demandé de faire des suggestions sur la thématique de la vocation, la première à laquelle j'ai pensé, Les Ignorants, d'Étienne Davodeau, Les ignorants, récits d'une initiation croisée, pardon. C'est vraiment une BD très, très intéressante, en fait, qui nous permet de découvrir, non pas un, mais deux métiers, en fait, deux amis, Étienne Davodeau et Richard Leroy. Davodeau, évidemment, est auteur de BD. Leroy, lui, est vigneron. Et donc, ce sont deux amis dans la vie. Et Davodeau a décidé de mettre en image, en fait, leur passion. En fait, les deux vont faire découvrir à l'un à l'autre leur métier respectif. Donc, dans le cas de Davodeau, la BD, il va nous plonger, en fait, dans le milieu de la bande dessinée. Il va non seulement, bon, Leroy a un petit... peu de connaissances, disons, en bande dessinée. Davodeau va lui permettre de découvrir ce merveilleux monde. Et à l'inverse, Leroy va permettre de faire découvrir le monde du vin à Davodeau. Donc, Davodeau va amener Leroy dans des festivals, va lui faire rencontrer des auteurs, va même faire répondre des auteurs suite à des impressions, si on veut, des lectures de Leroy. C'est assez amusant. C'est vraiment une BD dans laquelle on apprend un paquet de choses, même si on est passionné de BD. Honnêtement, c'est le fun de voir la mécanique, un peu l'arrière-scène, si on veut, de comment on fait une BD. Et à l'inverse, encore une fois, le monde du vin, moi, honnêtement, c'est quelque chose que je connaissais pas énormément. C'est vraiment très, très bien fait. Ma seconde suggestion, en fait, c'en est une autre sur un ton un petit peu plus sérieux. Il s'agit du photographe d'Emmanuel Guibert et Didier Lefebvre. Ça, c'est paru chez Dupuis en 2003, je pense, à l'origine. Donc, le photographe, c'est l'histoire de Didier Lefebvre qui, dans les années 80, lui est photographe. Et il va s'embarquer dans une aventure un peu folle, celle de suivre une équipe de médecins sans frontières en Afghanistan. C'est vraiment une des BD, je pense, des plus humaines que j'ai eu l'occasion de lire. La BD contient en fait un heureux mariage de photos et de dessins. Parfois c'est dur, mais vraiment, ça va vraiment toucher une fibre sensible. On voit un peu, je vous dirais, tout le travail de ces gens-là, qui est assez extraordinaire. Bref, je vous la conseille très, très fortement, le photographe de Lefebvre, Guibert au dessin, et le merci, d'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure. La troisième suggestion que j'ai pour vous aujourd'hui, j'ai la version anglaise, c'est en fait « Une vie dans les marges » de Yoshihiro Tatsumi. En fait, le récit d'une vie dans les marges, c'est un récit autobiographique, mais en fait, on voit vraiment les débuts de cet auteur-là, qui est un auteur majeur au Japon, qui est en fait l'auteur qui est à la source du terme « Gekiga ». Donc, Tatsumi nous fait traverser les années. On voit ses débuts avec son frère, qui est lui aussi passionné de bande dessinée. Ce que moi, je trouve vraiment intéressant avec cette bande dessinée-là, c'est que c'est à la fois un récit assez personnel, mais aussi, on voit un peu, je dirais pas en arrière-plan, mais en filigrane, l'histoire de la bande dessinée japonaise. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on va croiser aussi d'autres auteurs importants de l'histoire des mangas. Encore là, très touchant parfois, par moments. Mais aussi très, je dirais, très instructif. Ma suggestion, la suivante, on va revenir un petit peu ici au Québec, avec Betty Boob, donc de Julie Rochelot et Véro Cazot. Ça, c'est paru en 2017 chez Casterman. Rochelot et Cazot nous racontent l'histoire ici, c'est magnifiquement illustré, l'histoire d'une jeune femme qui, en fait, est atteinte d'un cancer et qui va subir l'ablation d'un sein. Ça va, on le comprend bien, changer toute sa vie. Le personnage principal va se trouver une autre vocation, celle de, en fait, danser dans une troupe burlesque. Betty Boob, un très très bon album sur un sujet qui est pas facile, mais qui est traité de manière franchement originale. C'est une très très bonne lecture.
Alors, merci beaucoup, Martin Dubé du Port de Tête, pour ces suggestions. Et maintenant, on passe à nos prochaines discussions. Et donc, on accueille dans la dite discussion Nunumi, autrice donc d'Un billet pour nulle part. Bonjour.
Bonjour.
Ainsi qu'Audrey Beaulé, autrice de Lavin. Bonjour.
Allô.
Alors, plaçons brièvement vos albums. En fait, Nunumi, Un billet pour nulle part, c'est un album dans lequel tu as choisi de raconter une série de trajets, une série de moments qui amènent un enjeu, une réalité, son évolution. On va un peu sur le terrain du voyage, mais d'un voyage au bout du compte où ton personnage n'a pas nécessairement d'objectif ou de finalité non plus dans ce voyage-là.
Oui, c'est ça. En fait, c'est plus une histoire à propos du trajet que de la destination. Tu sais, c'est un peu... il y a une métaphore avec trois autobus qui représentent un peu certains aspects de la vie. Tu sais, des fois, des conceptions de ce qu'on s'attend que ça doit être. Fait que chaque autobus, c'est un petit peu ça. Tu sais, puis c'est un peu le cheminement du personnage, tu sais, à travers sa compréhension de ces autobus-là, puis sa place là-dedans. C'est ça.
Et une métaphore du transport qui a été aussi utilisée par Audrey dans Lavin. Lavin qui a un peu des allures, en fait, de bilan d'état des lieux, donc une introspection. Aussi l'histoire d'un parcours, un parcours personnel, mais sous fond de parcours automobile aussi entre Québec et Montréal.
Oui, exactement. C'est vraiment un voyage un peu introspectif entre des pensées puis le paysage québécois qui défile sur Lavin. Puis, c'est aussi finalement un peu un lâcher-prise des incertitudes qu'on peut avoir durant la vingtaine. Donc, c'est ça.
Et j'ai l'impression, en fait, que vos trois albums, Mélanie, Audrey, Nunumi, c'est un peu des permissions aussi que vous vous donnez, mais que vous nous donnez, lecteurs, sur le fait de douter, en fait, de se questionner, d'être incertain d'une certaine façon. Donc, à travers vos témoignages, bien, on dédouane peut-être un peu ça en les racontant par le biais de l'intime. Est-ce que c'est un peu l'objectif de votre côté, un peu d'amener ces questionnements-là, de les légitimer, de les asseoir, ou vous le faisiez peut-être un peu au départ pour vous-même, pour vous légitimer justement, pour explorer ces questionnements-là que vous aviez?
Le pourquoi qui a mené à l'écriture, puis j'ai beaucoup apprécié les livres, les deux livres ici qui parlent toutes, dans le fond, du trajet, je pense, qui n'est pas nécessairement à suivre, mais justement qui n'est pas à... Ben, il y a des trajets à suivre, mais je trouve que les métaphores ont été super bien exprimées dans les deux livres qu'on parle ici, Lavin, puis Le billet pour nulle part. Parce que c'est en effet, il y en a un, c'est comme un éloge du off-road, là, tu sais, qui finalement part de son bord et puis qui décide de partir à pied, qui est une super belle image. Puis avec Lavin, puis le parallèle avec l'affaire avec la perspective...
Atmosphérique,
là, tu sais, c'est super bien, c'est une très belle fin. Puis peut-être qu'avec Contact, justement, avec Temps libre, ça, c'est pas juste se fier au résultat, mais en quelque part de s'attarder aux détours qui mènent quelque part, sans penser à quelque part.
Ouais, quand j'ai lu Temps libre, ça, tu sais, ça m'a, tu sais, en tant qu'artiste, je pense que ça vient chercher un peu, là, tu sais, ces émotions-là, ce questionnement-là, ce doute-là, tu sais, il est très vif. Ben, tu sais, je pense qu'on peut vivre ça en dehors de l'art, là, ce que tu décris dans ce livre-là. Mais ça nous ramène toujours au pourquoi on fait les choses. Tu sais, le pourquoi on fait la chose intrinsèquement, des fois, même nous, on le sait pas. T'sais, elle est comme masquée par un paquet de couches de choses, tu sais, puis je sais pas, quand j'ai lu ton livre, ça m'a vraiment ramenée dans ces questions-là, tu sais, puis il faut revisiter la question du pourquoi régulièrement, je pense.
Même quand t'es rendu à une espèce de destination ou quand t'arrives à un bout de voyage ou à un bout d'objectif, t'es vraiment juste pas rendu nulle part, là, tu sais, c'est juste qu'il faut que tu te remettes en question encore puis que tu te recettes une autre perspective pour juste continuer de marcher ou de dire carrément, bon, ben OK, c'est ici que ça s'arrête puis à cette heure, je tourne à gauche, tu sais, fait que...
Ou à la limite, un plaisir de naviguer un peu au hasard aussi, tu sais, qu'on nous dit tellement, exemple, avec la vingtaine, on est censé prendre plein de grandes décisions super importantes, mais, tu sais, finalement... Oui, mais non. Il n'y a pas nécessairement une obligation de savoir exactement où on s'en va. Puis c'est un peu ça aussi dans l'avant, c'est de se dire, bien, OK, je ne sais pas exactement ce que je vais faire avec mon diplôme. J'ai envie de le faire là, puis on avance avec ça tout simplement.
Puis il y a un aspect aussi que étudier en art, c'est pas nécessairement qu'il y a une conclusion à quelque chose, mais tout le passage de la transformation que ça nous apporte aussi nous-mêmes par l'imaginaire, par le sensible, qu'on peut ensuite transmettre aux autres est important aussi. Puis dans Temps libre, en fait, il y avait un passage avec le jeu Serpent-Échelle qui disait que dans le fond, l'important un peu, c'est pas de gagner, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt de continuer à faire ce qu'on aime, de continuer à jouer. Puis ça, je trouvais que c'est un passage qui m'a beaucoup parlé aussi, puis qui amenait un peu un côté presque ludique un peu à ces drames-là qu'on peut vivre ou à ces questions-là existentielles via le jeu de Serpent-Échelle qui était intéressant.
Ouais, ça enlève du poids un peu. Puis en plus, ça met l'idée du dé, de dire que, gars, c'est pas juste nécessairement parce qu'on le mérite pas si ça marche pas, que des fois, il y a le coup de dé quelque part qui décide.
Oui, parce que j'imagine, en fait, à travers tout ça, le défi, c'est de trouver comment mettre des images, comment mettre des mots sur ces sentiments-là, sur ces ressentis-là, parce que chacun, vous y allez avec trois angles un peu différents. Dans le fond, Nunimi, c'est un peu un récit métaphorique que tu nous proposes, mais qui est inspiré de réflexions que tu avais à l'époque où tu l'as écrit. Audrey, on est plus dans une allure un peu de journal, avec un certain recul aussi, donc une allure de bilan aussi, un peu métissée d'un côté à l'autre. Mélanie, toi, on va à fond dans l'autofiction, dans l'autobiographique aussi. Est-ce que ces approches-là sont imposées un peu d'elles-mêmes, puis dans le fond, qu'on se lance parce que ça vous semblait aussi aller de soi de raconter ou comme méthode, comme approche pour essayer de rendre ces doutes-là, ces questionnements-là, de les rendre compréhensibles pour le lecteur aussi?
Bien, je pense que, bien, tu sais, comme ça, là, cette question-là est différente d'une personne à l'autre. On ne peut pas arriver avec une conclusion dans une œuvre comme ça parce que ça ne sera jamais la même réponse pour n'importe qui, puis même toi-même, en fonction du moment où tu as la réflexion, ça ne sera pas la même réponse. Fait que c'est impossible, ça n'a pas le choix de rester ouvert, ça n'a pas le choix d'ouvrir une porte vers une forme de doute, comme tu décrivais avant, parce que il n'y a pas une réponse absolue à ça.
Toutes les formes, dans le fond, sont comme la forme de Nunumi, qui était plus une allégorie, peut-être, ou une... Et ça emprunte un peu la voie du fantastique du merveilleux, tu sais, en quelque part, ça fonctionne super bien. Puis Lavin, c'est en quelque part très intime. Je trouve que c'est très personnel, en fait, parce que je pense qu'il n'y a pas deux chemins de vie pareils. Voilà, avec, par exemple, dans Lavin, ce que j'avais beaucoup aimé, puis j'ai trouvé le fun, c'est qu'on... Tu parles autant des études de l'université, mais aussi de l'accomplissement des manifestations. Le passage où tu parles de comment tenir la main de la grand-mère, c'est super beau aussi. T'sais. Puis c'est comme si tout fit, tout a du sens dans ce livre-là. Et puis bien, dans l'autre aussi, dans le billet aussi pour Nulle part, tout chemine finalement pour bien illustrer une réflexion qui, dans le fond, est super abstraite. T'sais. C'est pas évident de mettre en forme ce questionnement-là qui est dire « Bon, ben qu'est-ce que je fais? » ou « À quoi bon? »
Oui, puis d'autant, à la limite, en fait, si on prend l'exemple de Lavin, puisque tu l'abordais, bien, j'ai l'impression qu'Audrey, tu fais à la fois une mise en page et une mise en mots aussi, parce que autant c'est l'image qui est mise en scène, autant c'est les mots qui deviennent parfois l'objet de la mise en scène aussi. Donc, c'est assez varié, comme assez éclaté comme approche visuelle dans ton cas.
Oui, bien, tant mieux si ça donne cet effet-là, parce que c'était vraiment souhaité que les mots deviennent images, que les images deviennent mots, puis que la mise en page soit travaillée pour faire voyager le lecteur ou la lectrice. Puis l'idée, finalement, d'aller vers l'autofiction, c'était une grande période de doute, mais en même temps, c'était une période où est-ce que un peu d'affirmation, de se dire « oui, j'ai envie de livrer ça », puis aussi, c'est de commencer avec des éléments que j'étais à l'aise de parler puis que je connaissais. Donc, il y avait cet aspect-là aussi.
Oui, quelque chose que j'ai senti dans ton livre qui était... puis tu me diras, est-ce que c'est mon interprétation à moi de ton histoire qui a donné ça ou si c'était quelque chose que tu parlais, mais j'ai senti le déracinement puis j'ai senti l'enracinement vers la fin aussi. Tu sais, il y a comme eu un... Mm-hmm. C'est pas un shift de... Il est où ton chez-toi physiquement? Tu es parti de Québec pour aller à Montréal, mais j'ai l'impression que ça se répercutait aussi ailleurs dans ta vie, pas juste géographiquement, mettons. C'était-tu là, ça?
Oui, je pense que c'est présent aussi. Puis c'est pas nécessairement à l'intérieur d'une ville, on dirait que j'ai trouvé mon chez-moi, mais à l'intérieur de moi aussi. Fait que je pense que c'est à travers l'introspection de la route aussi que d'être en mouvement, ça m'a quand même ironiquement fait trouver mon chez-moi, je pense. Ouais.
Et à travers ces trois récits-là, vous nous amenez, j'ai l'impression, sur des expériences qui sont aussi très intimes. Et même si c'est sous le couvert de la métaphore, dans ton cas, Nounoumi, mais est-ce que, justement, pour les deux qui ont été vers l'autobiographie de front, est-ce qu'il y a une gêne, il y a un recul, il y a une préoccupation dans la porte ouverte que vous faites sur votre intimité, dans des moments de vulnérabilité? Pour moi, en fait, je veux dire, les grands moments de doute, c'est des grands moments de vulnérabilité. Donc, est-ce qu'il y a une préoccupation un peu là-dessus? Puis, pour Nounoumi, ben, peut-être plus, dans le fond, est-ce que, justement, le fait d'aller vers la métaphore permet d'éviter de parler de front, de questionnements qu'on a eus de façon implicite, de façon directe?
Ben moi, je me suis un petit peu protégée avec des personnages. j'ai comme séparé plein de questions, puis je leur ai donné différents visages. Alors, je me suis peut-être un peu moins mise à nu de cette manière-là, ou en tout cas, peut-être. Je faisais ça. Les personnages créent une distance quand même, puis permet de leur donner une vie, puis d'essayer de faire... Il y a un processus de fictionnalisation. Tu sais, veux pas, tu mets en récit. Fait que c'était... pour moi, ça a été plus facile, dans le fond, de faire véhiculer des questions par différentes personnes plutôt que d'assumer toutes ces contradictions-là toute seule.
Puis j'imagine que narrativement, ça permet justement de créer des interrelations, des dynamiques aussi. Donc, mm-hmm. ça facilite un peu de ce côté-là aussi.
Oui.
Et Audrey, de ton côté, est-ce qu'on est à fond, je disais tantôt, journal intime, je pense que c'est à fond là-dedans. Est-ce que justement, on a cette préoccupation-là?
Ça a été vraiment un moment de grande vulnérabilité, effectivement, de livrer, surtout pas en créant la bande dessinée, mais en le laissant aller à l'imprimeur. Je dirais que ça a été un moment de vulnérabilité, mais qui était nécessaire, puis que ça m'a emmené à faire cette bande dessinée-là.
Et est-ce que tu l'avais faite au départ en disant justement « je vais la publier, je vais l'amener » ou la décision de la publier puis d'en faire un livre est venue en cours de création?
Au départ, c'était pas nécessairement destiné à être publié jusqu'à temps que je contacte ensuite Mécanique Générale. Dans l'écriture finale, oui, c'était dit que ça allait être publié. Donc, j'avais ce regard-là, mais je ressentais pas encore les regards ou les lectures sur le livre à ce moment-là.
Puis près d'un an après la sortie, est-ce que là, on les ressent un peu plus ou...
Oui.
Oui. Pour le mieux ou... Oui.
Pour le mieux.
Et Nounoumi, de ton côté, t'es allé d'office vers la métaphore, mais je disais que c'était quand même inspiré de questionnements que tu vivais aussi à l'époque. Est-ce que la métaphore, c'était un peu aussi pour trouver une façon de les exprimer ou aussi un peu peut-être pour créer une distance entre ce que tu racontais et ce que tu vivais?
C'était pas tant pour créer une distance, mais c'était plus pour générer la question, tu sais. Puis justement, je voulais pas aller trop personnel parce que je voulais pas que m'approprier la question. Cette BD-là est pas faite dans le contexte du... C'est pas vraiment une histoire, un biais pour nous le passe. Plus une allégorie, comme Mélanie disait tantôt. Au final, tu sais, fallait que je prenne l'approche plus métaphorique pour rester dans la thématique de la question, tu sais. Parce que le but aussi, c'était que... le lecteur, il la génère, la question. T'sais, les autobus, ils touchent à des thématiques quand même, quand même définies, mais la question en tant que telle, elle l'est pas tant que ça. Puis je voulais pas que le lecteur s'arrête spécifiquement à celle-là, mais qu'il se demande lui-même, ah, tu sais, ça, dans ma vie, c'est quoi? Puis crime, sa question à lui ou elle, ben elle sera pas la même que quelqu'un d'autre. T'sais. Fait que je voulais rester un peu, je voulais générer une question plus que de parler des miennes. Alors, c'est sûr qu'à travers de ça, il y a les miennes là-dedans qui ont orienté le pourquoi la première autobus, c'est une ferme. La deuxième, pourquoi c'est de la... il y a de l'opulence. Pourquoi? C'est parce que c'est généré par des questions que moi, j'ai eues, mais je ne voulais pas nécessairement l'imposer. Je voulais la générer. Puis je vise aussi un public un peu plus jeune, peut-être du 12, 14 ans, 10, en tout cas, dans ces eaux-là. Fait que je trouvais que ça se prêtait bien à la métaphore.
Et évidemment, je rappelle, en fait, qu'on peut découvrir ces albums-là. Donc, Un biais pour nulle part de Nounoumi, La vin d'Audrey Beaulé en librairie. Et tout ça, peut-être en conclusion, en fait, j'aurais presque envie de reprendre un peu ce que tu disais tantôt. Dans le fond, au bout du compte, Nounoumi, c'est des livres que j'ai l'impression que chacun, selon ce qu'il vit, va recevoir différemment aussi. Dans le fond, puis autant que j'imagine que vous, aujourd'hui, ces livres-là, vous les recevez différemment qu'au moment où vous les avez écrits et publiés, que votre relation avec Temps libre, avec L'Avant, avec Un biais pour nulle part, n'est plus la même qu'au moment de la création non plus?
Bien, quand il est fini, on dirait que ça... quand il part, en tout cas pour moi, quand il est parti, quand il était fini, tu sais, c'est quand même après toutes les corrections, puis tout ça, il y a... C'est comme une gestation, là, tu sais, c'est comme une grossesse à un moment donné. Quand il sort, c'est parce qu'il est temps qu'il s'en aille. Tu sais, il n'y a plus de place. Là, tu sais. T'as fait le tour, la bédaine est pleine.
Les questionnements sont sur papier. Je veux dire, on s'en est libéré un peu.
Exact. Fait une fois qu'il est sorti, c'est. En tout cas, pour moi, c'était une question de savoir est-ce que ce questionnement-là est pertinent pour d'autres, tu sais, puis est-ce qu'il y a d'autres lecteurs qui vont s'y retrouver. Parce que juste d'écrire pour moi, c'était pas ça l'intention. Donc, en fait, quand il sort, c'est de l'espoir qui reste. Et je dis, bon, mais j'espère que, tu sais, puis ça, mais on peut plus rien faire.
Puis de votre côté, Audrey Nounoumi, dans le fond, dans le contexte justement de ces albums-là qui sont lancés, est-ce qu'après un an, après deux ans, après trois ans, dans le fond, comme on est plus loin de ces questionnements-là aussi qu'on a vécu, bien, que la relation avec ces questionnements-là n'est plus la même, que le regard que vous portez sur vous à l'époque de l'écriture n'est plus le même non plus?
Pour ma part, je dirais qu'il y a un petit détachement qui se fait un coup que la bande dessinée, on ne peut plus la travailler, on ne peut plus qu'elle est complétée finalement. Puis tout ce que j'espère, c'est que l'aspect sensible chez le lecteur et la lectrice va pouvoir demeurer quelques temps du moins. Puis voilà, c'est ça, c'est une question un peu de détachement.
Oui, la photographie d'un instant dans le fond, qu'on met sur papier, puis après ça, qu'on laisse aller tout simplement. Nounoumi, en conclusion? De ton côté, comment en fait tu reçois un peu, parce que toi, ça fait un bout de temps aussi qui est sorti, ça fait un bout de temps que tu n'es plus dans ces questionnements-là non plus. Est-ce que tu as l'impression que le livre a fait son œuvre pour toi, dans le fond?
Ce que je me suis rendu compte avec la BD, cette BD-là, puis l'autre d'avant aussi qui est un petit peu dans le même esprit là, de métaphore, là, c'est que ma propre interprétation, elle a changé un peu dans le temps. Fait que, je repasse au travers, puis crime, des fois, je vois d'autres choses dedans, même si c'est techniquement le même cerveau qui l'a généré il y a une couple d'années. Puis même cette histoire-là, je l'ai fait en BD, là, il était publié en 2019, mais je l'avais avant, mais c'était une histoire qui datait de quand même quelques années avant. Mais à chaque fois, il y a un petit quelque chose de nouveau qui se greffe. Puis là, même une lecture un an, deux ans plus tard, on dirait que des fois, une petite tournure ou un petit ajout de plus à la signification que j'avais pas perçue, mais c'est pas parce qu'elle était là, c'est juste que, je pense que notre cerveau fait ça, il greffe de la signification où il peut en trouver, puis le fait d'être flou génère... Tu sais, notre cerveau va remplir le vide. Fait que le vide que tu laisses, il est fertile, peu importe le moment où il est rempli, tu sais.
Nounoumi, Audrey Beaulé, merci beaucoup d'être passée par la bande.
Merci beaucoup de l'invitation.
Merci pour l'invitation, merci.
Et on poursuit ici à Par la bande. On accueille maintenant Stéphane Lemardelé, co-auteur du Nouveau Monde paysan au Québec. Stéphane Lemardelé, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'entrée de jeu, dans le Nouveau Monde paysan au Québec, tu t'es intéressé à la réalité des nouveaux agriculteurs, de la nouvelle agriculture dans notre province par le biais de la bande dessinée. Donc, une BD documentaire à laquelle tu es allé à la rencontre d'acteurs qui font ce milieu, qui font cette nouvelle agriculture.
Oui, c'est ça. En fait, l'anecdote, c'est que j'ai un ami qui est décédé depuis... malheureusement, qui faisait une formidable récolte d'ail à Pigeonnier, dans un tout petit village. Puis on était 150 personnes de tout acabit, de tous horizons, à avoir les mains dans la terre, les pieds sales à la fin de la journée, tout crotté. Mais on ramassait près de 70 000 plants d'ail en une seule journée. Alors on était usés, fatigués, mais on avait tous le sourire jusqu'aux oreilles. Puis en vivant cette expérience-là, année après année, je me suis dit, il faut raconter ça. Et puis le souci que j'ai eu, c'est que je suis tombé dedans dans le sens que au début, je vais faire un 54 pages, 60 pages maximum classique. Mais en rencontrant ces agriculteurs, ces maraîchers dans leurs champs, j'ai été confronté à toutes les problématiques qu'ils avaient. À savoir que ici, faire pousser des légumes au Québec en hiver, on a des contraintes climatiques qui sont compliquées, mais en plus, ils ont des contraintes légales, gouvernementales, municipales, etc., qui fait que c'est quasiment impossible à faire. Alors, c'est face à ces problématiques-là que je dis, il y a quelque chose à raconter, il y a quelque chose à fouiller, et puis finalement, ça fait 250 pages, quoi.
Et à travers tout ça, dans le fond, autant si je regarde Contact, autant si je regarde Le Nouveau Monde Paysan au Québec, on est dans des récits de transmission, puis j'ai l'impression aussi, dans une certaine mesure, dans des récits de vulgarisation, parce que le lecteur à qui vous adressez n'est pas cinéaste, il n'est pas agriculteur, il n'est pas maraîcher, donc il faut aussi expliquer c'est quoi le médium, expliquer c'est quoi le contact avec ces médiums-là, avec ces techniques, ces approches-là, et expliquer pourquoi on peut être passionné aussi de ces approches-là et de ces techniques-là.
Mm-hmm. Effectivement, je pense que c'est le gros avantage de la bande dessinée. On faisait un peu le parallèle au cinéma, qui demande effectivement beaucoup de moyens, etc. Alors qu'avec la bande dessinée, non seulement c'est facile à mettre en place, d'autant plus avec les outils qu'on a actuellement qui nous permettent de mélanger la photo, la vidéo, faire des recherches par nous-mêmes tout simplement. Mais surtout, je crois que la bande dessinée à garder ce côté ludique, le côté plaisir, qui fait que on peut s'attacher ou s'intéresser à un sujet qui ne nous avait jamais été proposé auparavant, aussi bien en tant qu'auteur que surtout en tant que lecteur, puis plonger dans un sujet auquel on n'aurait jamais pensé auparavant. Il y a ce côté simple, humble de la bande dessinée qui fait que c'est un médium qu'on peut porter à la portée de tout le monde, justement.
C'est comme si le sujet, n'importe quel sujet passe par une espèce de filtre de narrativité où il faut que, dans le fond, il faut l'adapter pour que ça soit lisible à l'image et que ça soit intéressant et compréhensible. Puis en même temps, il faut que ça reste amusant. Il faut que ça soit une expérience de lecture amusante. Sinon, on sait très bien que ce qui va se passer, c'est qu'on va juste regarder les images puis on va juste flipper les pages. Alors, il faut quand même essayer d'aller à l'essentiel aussi dans le message, la transmission. Donc, en essayant de se focusser sur les relations puis en essayant de se focusser sur des personnages auxquels on s'attache, ça amène de l'affect, tu sais, ça amène une espèce de lien que le lecteur peut développer par rapport à des personnages ou justement une relation d'apprentissage où le lecteur finit par accompagner le créateur et puis découvre et apprend aussi.
Oui, puis ce qui fait que l'humain est omniprésent, dans le fond, dans vos albums, il est partout, dans les pages, dans l'émotion qu'il transpose, dans le message qu'il propose aussi, dans le fond, que ce soit à travers une multitude de portraits dans Le Nouveau Monde Paysan, je veux dire la surabondance de visages qu'on découvre au fil des 200 quelques pages de l'album, ou à travers le côté très humain puis très relationnel, très intime, par exemple, de Contact, puisqu'on est dans l'idée de la transmission. Donc, cet humain-là est omniprésent dans vos albums.
Oui. Puis je me demandais par rapport à ton livre, tu sais, si t'as, au début, quand tu avais l'intention d'écrire, est-ce que tu as imaginé aussi la possibilité d'écrire cette histoire-là par le biais justement de, je ne sais pas comment dire, au lieu de donner la voix à plusieurs personnages, d'essayer de scinder tout ça puis de créer une espèce de, une fausse biographie, un faux documentaire dans le fond, où tu aurais cheminé avec, mettons, un gars ou un couple qui décide d'acheter une terre puis qui chemine dans ce village-là pour tout dire ce que tu as réussi à dire aussi?
En fait, je ne me suis pas trop posé la question parce que, pour ma part, j'estime que je ne suis pas un bon raconteur. Je ne sais pas raconter des blagues. Donc, de là, je ne sais pas raconter des fictions en tant que tel. Quoique j'y viens dans mes prochains projets, parce que petit à petit, on s'améliore quand même. Et alors, la forme documentaire, parce que pour moi, c'était vraiment ça que j'ai commencé par cette démarche-là, s'imposer par elle-même. J'aurais pas imaginé une fiction parce que j'avais les pieds dans la terre en ayant cette idée-là. Puis, ce qui m'intéressait au prime abord, c'était ces 150 personnes-là qui étaient devant moi. Alors, je ne pouvais pas, il n'y avait pas besoin d'inventer des affaires, tout était là non plus. Alors, la forme documentaire est comme tombée un petit peu sous le sens. Puis en plus, il y a un parcours personnel qui est derrière, c'est-à-dire que j'ai toujours été un passionné de bande dessinée, j'ai toujours imaginé que ce n'était pas quelque chose d'atteignable de le réaliser par moi-même, d'en faire. Et la forme documentaire m'a permis de voir que, ah, tiens, ça peut-être que je serais capable de le faire. Alors, il y a eu un processus aussi. Puis, là, pour moi, il y a un côté que tu disais tout à l'heure qui est très intéressant, le fait qu'il y ait un côté humain juste dans l'objet du livre. Quand on regarde un film, le film, il appartient toujours au réalisateur. Quand on a un livre entre les mains, bah, oui, c'est le livre de Mélanie Leclerc, mais l'exemplaire que j'ai chez moi, c'est mon livre. Alors, je pense qu'il y a un sentiment d'appropriation qui est peut-être plus proche. Et l'anecdote, c'est que je travaillais aussi pour un petit journal local des environs de Sutton, où je faisais une bande dessinée d'une page par mois, par trois mois. Et j'avais quelques retours, mais pas plus. Et quand j'ai fait, pour la première fois, que j'ai raconté en une seule page cette récolte d'ail, j'ai eu plein de retours de gens que je ne connaissais absolument pas et qui ne connaissaient absolument pas cette récolte d'ail-là, qui me disaient « Ah, je me reconnais là-dedans ». Comme s'il y avait un sentiment d'appropriation de l'œuvre, du dessin, qui est peut-être plus grande. Je ne le sais pas. Là, il y a quelque chose qui reste encore pour moi de l'ordre du mystère, mais j'ai l'impression que le dessin est à la portée plus de tout le monde. On se l'approprie. C'est tout bête, mais plein de gens ont fait des milliers de photos. On ne les regarde plus. Dans la série de photos qu'on fait passer avec son doigt sur le iPad ou sur le téléphone, dès qu'il va y avoir un dessin, ah, on va s'arrêter, on va le regarder. Alors, je pense que le dessin a encore cette force-là d'arrêter notre regard qui fuit tout le temps, qui part dans tous les sens. Alors, il y a un côté humain, ne serait-ce que dans le médium. Et puis, pour moi, dans toutes mes démarches artistiques, que ce soit dans des interventions artistiques ou des interventions dans des villages ou des créations collectives, le côté social est primordial. C'est comme, je peux pas, c'est ça qui me semble le plus important, d'avoir un impact social, d'avoir un message passé. Une de mes plus grandes fiertés de paysan, c'est que Paysan a été cité à l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission parlementaire sur l'utilisation des pesticides et la représentativité des agriculteurs. Alors, si avec un simple livre, je ne peux pas dire que c'est ce livre-là qui a fait changer la loi, mais si on peut influencer à ce niveau-là, ben, y a une portée qui est là quand même. Alors, la bande dessinée a un rôle de plus en plus important. Et l'avènement des romans graphiques qu'on voit depuis 20 ans à peu près, parce que ça a commencé aux environs des années 90 avec l'association, il y a quelque chose. Et moi, personnellement, je me suis désintéressé de la bande dessinée pendant longtemps pour être retombé en amour, notamment avec Étienne Davodeau, Les Ignorants, qui a été un des, pas le premier, parce qu'il y a eu Spiegelman avant, etc., à retomber là-dedans. Parce que la BD garde le côté ludique, comme on disait tout à l'heure, mais on apprend des affaires. Alors ça, c'est pour moi, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est comme un médium extraordinaire de faire passer des messages de 7 à 77 ans. Et ça, je l'ai vu aussi, on rejoint un public vraiment très très large, de plus en plus féminin en plus. Donc ça, c'est vraiment le fun.
Et peut-être en terminant un peu là-dessus, avant de vous laisser, dans le fond, est-ce que dans un contexte comme ça, donc quand on offre un regard sur une certaine transmission, sur un certain passage d'un savoir, est-ce qu'on a une responsabilité aussi, au-delà des humains qui l'animent, mais envers aussi une discipline, envers une technique, envers une approche, quand on raconte l'histoire du cinéma québécois par le truchement de son père, quand on raconte la situation des agriculteurs, est-ce qu'on a ce sens de responsabilité-là?
Ben, il y a une responsabilité. Dans le fond, quand je parlais un peu de cinéma québécois, ben, je ne l'ai pas affronté de front, mais c'était beaucoup. Je voulais vraiment y aller avec beaucoup de respect. Quand je nomme Pierre Perrault, je le nomme avec beaucoup, beaucoup de respect. Et puis, en quelque part, ça. Donc oui, ça se fait pas avec des pincettes là, parce que c'est ça fait moins personnel là, si on le dit avec des pincettes. Puis ça, non, non, ça. C'est, mais ça se fait avec précaution parce que c'est quelque chose qui était très important. Donc, puis qui existe. Donc, j'imagine que c'est comme toi aussi avec les gens que tu as rencontrés. Tu veux leur faire honneur. C'est un sujet qui nous est propre parce que si on passe toutes ces années-là ou ces mois-là, ces heures-là devant, dans notre solitude sur papier, c'est qu'on veut qu'ils aient une belle vie.
Oui, tout à fait. Je pense que le respect de l'autre, quand on entame ce genre de démarche, puis ça se sent dans ton livre, en plus, Pierre Perrault, c'est comme, waouh, on ne peut pas. Comment dire, il nous a vraiment appris un nouveau message, une nouvelle façon de faire du cinéma. Ça a été un maître pour plein de gens. Moi, le premier, quand j'ai découvert les documentaires de Pierre Perrault, c'est comme, oh, waouh, on est vraiment dedans. Alors, on ne peut avoir que du respect pour ces gens-là, puis que ce soit Pierre Perrault ou que ce soit le planteur d'ail à Pigeon Hill, ces gens-là, d'autant plus, nous nourrissent. Alors, je pense qu'il y a un côté, on se met à leur niveau, on se met à leur écoute, déjà. Ça, c'est la première démarche. On se met à les écouter, on essaye de prendre le maximum de ce qu'ils veulent bien nous donner. Et on essaye de l'interpréter avec la façon la plus respectueuse, comme tu disais, la plus noble. On sait tout petit. Là, je travaille sur un autre projet qui parle de cinéma, justement. Puis, quand j'étais sur le plateau de tournage, je me suis fait tout petit pour laisser les gens s'activer, puis essayer de capter le maximum d'eux de ce qui se passait, quoi. Alors, je pense que c'est le fondement de... Moi, c'est ce que j'ai appris en regardant les films de Pierre Perrault. Comment il arrive à se mettre dans une cahute en bois, dans un atelier où ils sont en train de construire un bateau, tout petit dans un coin avec tout l'équipement. Il leur laisse toute la place à ces gens-là. Puis moi, je trouve que c'est merveilleux d'arriver à faire ça. Puis ça, c'est oui, le cinéaste, selon moi, ou l'auteur, doit s'effacer quand on est dans une démarche documentaire, même si on a toujours une vision particulière ou singulière qu'on veut faire avancer. Il y a un côté de s'effacer, puis de tendre le micro. Quand je dis le micro, c'est pour faire le rapport au cinéma, mais de leur donner la parole. Je pense que c'est ça la démarche. Je ne sais pas pour toi, Mélanie, mais...
Oui, puis d'essayer de savoir les capter quand ils font qu'est-ce qu'ils aiment ou quand ils parlent de qu'est-ce qu'ils aiment. Parce que c'est là qu'ils sont les plus beaux.
Exactement. C'est dans ton livre que tu le dis... C'est ton
père. Je m'auto-cite, hein? C'est vraiment.
C'est bon? non, mais je pense que c'est ton papa qui, à un moment donné, dans ton livre, t'explique: laisse les gens travailler, ils vont plus s'occuper de toi, puis toi, tu vas pouvoir capter d'eux. C'est ça, hein, à un moment donné?
Ça ressemble à ça, oui.
C'est ça, à peu près, hein?
Oui.
C'est un peu l'idée, c'est de laisser l'autre parler, parce que l'autre, notre voisin, qui que ce soit, il y a quelque chose d'intéressant à dire. Alors, c'est ça qu'on essaye d'aller chercher.
Stéphane Lemardelé, merci beaucoup d'être passé par la bande.
C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir immense. Puis j'ai découvert ton travail, Mélanie, alors je suis heureux.
Excellent.
Et, merci. Et Mélanie Leclerc, de ton côté, en fait, c'est un peu l'invitation qu'on lance à tous nos invités plateau. Donc, est-ce que tu as des suggestions, des propositions? On rappelle que la thématique de l'émission, c'est un peu la vocation, la transmission. Alors, est-ce que tu as des suggestions en lien avec la thématique?
Oui, j'en ai. Puis là, ben, vous me direz quand est-ce qu'il faut que j'arrête. Je ne sais pas combien.
Il y a une bonne petite pile à côté de toi.
Oui, c'est ça. Je voulais en avoir quelques-uns. Et puis, bon, Le monde à tes pieds de Nadar. En lien avec la thématique, c'est que ça parle, dans le fond, de trois destins, de rêves un peu confrontés durement à la réalité de ce pays-là qui est dans une espèce de down économique, là, disons. Et puis, le monde est à tes pieds, c'est un peu la promesse quand tu es jeune, puis que tu ressens que, dans le fond, l'avenir t'appartient. Puis l'espèce de pouf, quand tu tombes en pleine face, quand finalement il t'appartient pas pantoute, puis il y en a pas tant que ça de place. Puis des percées encore là, c'est des personnages qui sont super attachants et qui, une œuvre qui était très bien et que j'ai beaucoup apprécié. J'ai-tu encore le temps?
Oui.
Oui, OK. Ça, parce que c'est sympathique, j'aime beaucoup. Ben, sympathique, c'est super beau en plus, mais Jérôme et l'arbre de Nilsson, je le dis jamais. Nilsson. On le connaît, le petit Jérôme de l'Alphagraphe, qui était un petit libraire Ben non, qui s'était, dans le fond, qui est devenue stagiaire pour être libraire dans la vie, après avoir, dans un autre album, appris avec son maître spirituel. Et puis ici, il quitte la librairie et il va, avec son âne et sa caravane, il veut tout abandonner pour aller écrire, vivre sa vie et écrire sur la vie. Mais finalement, il se rend juste comme en bas du village parce que son âne est fatigué, puis il reste là, puis il y a un arbre. Alors, il décide de s'asseoir dans l'arbre. Il ne veut pas redescendre, un peu à la Italo Calvino, là, mais dans un autre contexte. Et puis, alors, un beau livre, vraiment tendre, puis les dessins sont tellement sublimes. Jérôme et l'arbre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore le temps?
On a encore le temps, mais surtout pour Daytripper.
Daytripper. J'ai essayé de faire l'exercice hier d'essayer de le résumer. J'ai de la misère à le résumer. C'est un homme qui veut être écrivain. Et puis, au début du livre, il ne l'est pas encore. Il travaille au service, il écrit des nécrologies dans un journal. Et puis, il meurt. Il meurt subitement au début. C'est pas un spoil. Il meurt au début. Et on a sa notice nécrologique. Et puis ensuite, tous les autres chapitres, c'est dans le fond plein de moments forts qui font suite à... C'est plein de moments où il aurait pu mourir. Il aurait pu mourir à 11 ans, il aurait pu mourir à 38, il aurait pu mourir à... Et puis à chaque fois, il y a la notice. Et à chaque fois, c'est des super beaux moments, des belles expériences de vie. Et puis, ça finit d'une manière super habile. Puis vraiment, c'est un beau... Beau voyage, Daytripper. C'était vraiment un beau livre.
Un petit dernier.
Ben, j'avais... Ah! Mais j'avais le sculpteur, mais dans le fond, je voulais aussi parler de The Loneliness of the Long Distance Cartoonist, avec un bel accent, je ne sais pas, c'est en anglais. Je ne sais pas si on avait le droit.
On a tous les droits.
Qui était encore là, super sympathique, mais qui est comme sur l'achèvement quand c'est très autobiographique, ça, je crois. Et puis, qu'est-ce qui arrive quand tu as mené ton rêve à bout de bras, puis que ça fonctionne bien, puis que tu as un succès, comme cet homme-là, cet écrivain-là, cet auteur? Bien, comment le faire durer? Comment survivre avec ça? Comment le confronter? Et puis, une question aussi par rapport à se renouveler comme artiste, qui ressemble à Oleg aussi, qui vient de sortir de Peters, puis... J'ai plein d'autres idées, mais bon.
Oui, tu avais le sculpteur aussi, justement.
J'avais le sculpteur, puis il y avait les livres de Jean-Sébastien Bérubé que j'ai pas amenés, parce que dans le terme de vocation, genre, comment ne pas penser à comment je ne suis pas devenue moine, et puis même Le Vers la tempête que je n'ai pas amené, parce qu'il était sorti à la bibliothèque où je travaille, mais qui sont des œuvres super intéressantes au niveau de la découverte de soi, puis d'aller au bout, puis de ne pas avoir peur de, finalement, changer de direction. Voilà, c'était mes suggestions.
Mélanie Leclerc, merci beaucoup.
Merci.
Et merci d'être passé par la bande.
Ça fait plaisir.
Et bien, merci à vous tous et toutes également d'avoir été à l'écoute. Je rappelle, Par la bande était présenté ici à la Maison de la littérature dans le cadre du 34e Festival Québec BD. Et on sera de retour la semaine prochaine, donc pour le dernier épisode de cette première saison de Par la bande, où on parlera d'espace et de science-fiction. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous et à la semaine prochaine.